Mondial Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mondial Sport avec au sommaire ce soir du football en Afrique, en Europe et en Amérique avec des éliminatoires à gogo, ceux de la CAN 2021, ceux de l'Euro 2020 avec notamment l'équipe de France qui joue demain en Albanie et également le retour de Thierry Henry en MLS. Didier Drogba à l'honneur également, il est en campagne pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Une passe tennis également avec la jeunesse qui triomphe au Masters de Londres. Mondial Sport avec à la réalisation ce soir Hélène Avril et Jean-Philippe Thury. C'est parti. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde.
Le football africain, c'est votre domaine ce soir. On va parler des éliminatoires donc de la CAN 2021. Suite et fin aujourd'hui, restaient à jouer les deux affiches du groupe K, en ce qui concerne la première journée. Et ça y est, nous avons tous les résultats.
Et le dernier est tout chaud, ou presque. C'est fini depuis une trentaine de minutes à Abidjan, où la Côte d'Ivoire a très, très difficilement dominé le Niger. 1-0, but inscrit par Franck Kessié sur un pénalty généreusement accordé, on va dire. La frustration du défenseur nigérien Hervé Liboy.
Déçu du résultat. Je pense qu'on avait la possibilité de ramener au moins le match nul d'ici. Maintenant, voilà, je pense qu'une grande équipe comme la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ce genre de petits coups de pouce de l'arbitrage pour pouvoir gagner leur match. Donc voilà, c'est dommageable. Maintenant, voilà, on va retirer le positif de ce match et corriger tous les petits trucs qui n'ont pas été pour bien préparer le match contre Madagascar.
Hervé Liboy, international nigérien d'origine ivoirienne, avec Emmanuel Kofi. Un peu plus tôt dans la journée, Madagascar avait battu l'Éthiopie sur là aussi le score de 1-0, minimum syndical, c'est toujours ça de prix, même si depuis cet été, on attend beaucoup des Baréas, quart de finaliste de la CAN égyptienne à la surprise générale, et désormais soutenu par tout un peuple sur la grande île. La ferveur n'est pas encore retombée. Reportage de Laetitia Bézin.
C'est à guichet fermé que les Baréas ont joué leur premier match à domicile depuis leur épopée à la CAN. Les quelques 25 000 places du grand stade de Mahamasne se sont vendues en quelques heures, dès 6 heures du matin. Ce sont des centaines de supporters qui ont fait la queue pour pouvoir soutenir leur équipe. Louva a fait 2 heures de marche pour arriver jusqu'ici.
Je suis venue à pied parce qu'il y avait trop d'embouteillages et beaucoup de monde dans la rue. On a attendu pas mal de temps et j'ai eu peur de ne pas pouvoir rentrer. Je suis très contente car pour moi, les Baréa, c'est la joie et le rassemblement du peuple malgache.
Une équipe nationale dont la notoriété a explosé depuis le mois de juillet, si ce sont surtout les inconditionnels de foot qui suivaient les Baréa avant la CAN, comme Augustin, 68 ans.
J'ai toujours suivi cette équipe depuis il y a très longtemps, 30-40 ans. Et là, c'est une très belle équipe qu'il faut supporter. C'est un engouement populaire.
Aujourd'hui, tous les malgaches les encouragent dans les gradins. Myangal, 12 ans, vêtu d'un t-shirt de Fanevaïma, patiente avec sa famille avant le coup d'envoi.
Avant, je regardais pas trop les foot parce que je croyais que c'était des trucs des garçons, mais quand les Baréens ont commencé à gagner, j'aimais beaucoup les foot et on faisait des matchs interclasses et je participais toujours.
À 16h, c'est devant un stade plein à craquer et dans une ambiance survoltée que les ébus de Madagascar entament le match. À la 19e minute, le but du milieu de terrain, Ryan Raveloussou, embrase les supporters. Une ambiance qui ne redescend pas malgré les difficultés qu'impose l'Éthiopie. Au dernier coup de sifflet, Cédric, 38 ans, rayonne.
C'est une grosse fierté pour nous les Malgaches. Je dirais qu'il y a un an de cela, on n'aurait pas espéré autant de personnes. Et ça nous rend heureux de voir notre pays à travers notre équipe de foot sortir un peu du quotidien et nous mettre un peu du baume au cœur.
Sur la pelouse, quelques chanceux accourent pour saluer leurs joueurs préférés, notamment la star du match, Ryan Raveloussou.
J'habite dans ce quartier, toute ma famille vient d'ici. Donc pour moi, c'était vraiment une sensation particulière. Revenir ici après la CAN qu'on a fait, ça nous a fait très très plaisir, surtout l'accueil qu'on a. L'accueil est toujours chaleureux et on remercie le peuple malgache pour ça.
Des Malgaches qui attendent beaucoup de l'équipe depuis son exploit à la CAN, Ibrahim Amada, milieu de terrain.
C'est comme ça depuis qu'on est rentré de la CAN, c'était une effervescence comme ça. Et je pense qu'on va donner tout le temps le maximum sur le terrain pour que chaque Malgache, de n'importe quel pays, soit fier d'être un Malgache. Maintenant, tout le monde connaît que Madagascar peut pratiquer un bon football, donc tout le monde nous attend. Je pense que tout ce qui a retenu aujourd'hui, c'est les 3 points et on est bien rentré dans l'éliminatoire.
Des supporters qui ont aussi dit au revoir et rendu hommage à l'ancien capitaine et joueur emblématique Fane Vaimaanjatsim, qui prend sa retraite internationale et jouait donc son dernier match avec les Baréas.
J'ai commencé ici, donc logiquement je dois terminer ici. En plus, moi j'ai une dette à l'équipe nationale parce que c'est grâce à cette équipe nationale que j'ai pu partir en France. Et après, encore une fois, c'est grâce à cette équipe nationale que j'ai pu signer en Arabie Saoudite. Mais je suis le premier supporter de l'équipe. Et s'il a besoin que ce soit, ben, je suis là prêt à les aider.
Les joueurs de la sélection malgache s'envoleront dans la nuit pour leur prochaine rencontre contre le Niger mardi. Laetitia Besan, Talana Rivou, RFI.
Les éliminatoires de la CAN 2021, suite avec maintenant Thomas, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. On revient sur un match qui s'est terminé hier soir, c'était tard, hein, Maroc-Mauritanie, le groupe E.
Une des petites surprises de cette première journée, le match nul 0-0 obtenu par les Mourabitounes en terre marocaine. Un bon point qu'ils doivent surtout à leur gardien de but, Namori Diop, infranchissable hier, le sélectionneur français de la sélection mauritanienne, Corentin Martins.
On a énormément défendu, trop défendu. C'est pas ce qu'on souhaitait. On souhaitait un peu plus avoir le ballon, essayer de plus se projeter, de se créer des occasions. Mais on a eu beaucoup de mal sur le plan offensif à exister parce qu'on a été trop timide. Dès qu'on récupérait le ballon, on le perdait aussitôt. Donc, mis à part 5-6 fois dans le match, mais à chaque fois qu'on a réussi à passer leur ligne de pression, on a été... pas au bout de nos actions, mais on aurait pu être plus dangereux si on avait été plus calme sur la dernière passe. Quand ils avaient du mal à défendre, on avait notre gardien qui était sur un très grand soir.
Corentin Martins avec Anas Yacine.
La première journée des éliminatoires à peine bouclée, ben voilà déjà que se profile la deuxième.
Dès demain, gros programme, 12 rencontres en tout, avec dès 11h temps universel, Soudan du Sud, Burkina Faso, une affiche du groupe B, un match déjà très important pour les étalons tenus en échec par l'Ouganda 0-0. En milieu de semaine, réaction attendue sur la pelouse du petit poussé de la poule, l'attaquant Aristide Bansé au micro de Gabriel Barrois.
On est venu ici pour gagner. Voilà, le match nul à Ouara, on a encore ça en tête. Et pour pouvoir être bien, je pense qu'on doit gagner. Voilà, faites marquer. C'est ce qui est un non-problème actuellement. Je pense qu'on va tout faire. Peu importe notre manière de jouer. On pense que c'est la victoire. C'est la victoire qui est le plus important. Voilà, il y a beaucoup de qualité devant. Il y a de bons joueurs. Avec l'esprit de groupe, je pense qu'on aura les 3 points ce dimanche.
Dans l'autre rencontre de la poule du Burkina d'Aristide Bansé, le leader, le Malawi, se déplace en Ouganda.
On jouera aussi dans le très relevé groupe A. Et là, attention, piège pour le Mali qui rend visite au Tchad.
Oui, le Mali déjà un petit peu sous pression, on va dire, après le nul de partout concédé à domicile contre la Guinée. Et en plus, opposer ses aigles à une équipe du Tchad revancharde, les Sao, battus d'un petit but en Namibie 2-1. Battus, pas encore, loin du tout même, loin, très loin d'être abattu, leur sélectionneur Emmanuel Trégoat annonce la couleur.
On peut attendre une réaction d'orgueil parce que on est passé un petit peu à côté de notre match. Je pense qu'on aurait pu mieux faire et revenir avec au moins un match nul. Après, ça n'a pas été le cas, donc il faut essayer de récupérer des points contre le Mali, même si on sait que c'est un très bel adversaire. On les a vus jouer contre la Guinée, même s'ils ont fait que match nul, mais on voit que c'est une très belle équipe. Tout le monde est motivé, tout le monde a envie de faire encore mieux, et puis on est dans une phase d'apprentissage, mais on est dans la progression, donc c'est ce qui est intéressant. Maintenant, il faut ne pas répéter nos erreurs pour grandir plus vite.
Emmanuel Trégoat au micro de Saint-Yves, deux abbés, Chouadang, plus tard dans la journée, toujours dans ce groupe A, la Guinée accueillera la Namibie.
À l'affiche encore demain, les vice-champions d'Afrique, les Sénégalais d'Aliou Cissé, ils rendent visite à l'équipe des Swatini.
Et sur le papier, pas photo entre ces deux sélections. Sur le terrain, tout peut arriver. Mais ça, les Sénégalais, ne vous inquiétez pas, Eric, le savent déjà. Les Lions de la Teranga s'avancent à pas feutrer le sélectionneur Aliou Cissé avec Babacar Fall.
On sait que les matchs en Afrique sont difficiles, je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas de petite équipe en Afrique, donc c'est un match qu'on a préparé sérieusement, et on sait que pendant 95 minutes, il nous faudra jouer à notre meilleur niveau, être dans la continuité. C'est une équipe qui est en constitution aussi, Eswatini, avec quelques bons joueurs. C'est un match, comme je l'ai dit, une équipe qu'il faut prendre au sérieux et ne sous-estimer personne. Donc un match n'est jamais gagné tant qu'on ne l'a pas joué. Et ce match-là n'est pas encore gagné, malgré que les gens peuvent penser que ça va être un match facile, mais nous, on ne le prend pas pour un match facile. J'attends de mes joueurs beaucoup de professionnalisme et surtout beaucoup de concentration pour justement empocher les trois points.
Eswatini, Sénégal, coup d'envoi 13h, temps universel. 3h plus tard, dans l'autre match de ce groupe, le I, le Congo reçoit la Guinée-Bissau. Les Congolais doivent se reprendre après leur défaite initiale au Sénégal 2-0.
Autre équipe de Haut-Mur dans la poule L, il s'agit du Bénin.
Les écureuils se sont inclinés 2-1 au Nigeria mercredi, rien d'alarmant pour l'instant, à condition bien sûr de rebondir demain contre la modeste Sierra Leone. Dans ce groupe L, comme les Soto, les crocodiles de la petite enclave justement accueillent le Nigeria, à suivre aussi demain. Afrique du Sud, Soudan dans la poule C, Gabon, Angola dans la D et Rwanda, Cameroun dans la F. Les Lions indomptables, on le rappelle, sont qualifiés d'office pour cette CAN en tant qu'hôte du tournoi.
Tous les résultats de cette deuxième journée, évidemment, demain soir dans Mondial Sport. On était en Côte d'Ivoire en début d'émission. Thomas, bah on y revient, on y retourne pour évoquer l'autre actualité du moment, de la semaine, la candidature de Drogba Didier à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football.
Les crampons à peine rangés, l'ancien capitaine des éléphants s'est lancé dans le premier match de sa deuxième vie. Opération Séduction démarrée cette semaine à Abidjan où il a rencontré des présidents de clubs pour leur présenter son programme baptisé Renaissance, et visiblement le courant est plutôt bien passé. Emmanuel Kofi.
L'ancien capitaine des éléphants a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football aux dirigeants de club lors d'une série de rencontres avec ceux-ci. Niapo Antoine, président du Balai Sport de Bio, club de 3e division.
On connaît Didier Drogba sur le terrain. C'est d'abord un plaisir de le retrouver, d'échanger avec lui. Et je pense que ce qu'il veut apporter au football ivoirien devrait en profiter. Président de club, joueur, et puis même avec l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, il a apporté cette image rayonnante pendant qu'il était sur le terrain. Maintenant, il veut apporter une autre touche autour de la fédération.
Repenser le football ivoirien pour le développer, c'est l'objectif affiché par Didier Drogba. Ses idées sont-elles novatrices? Anzouan Kakou Albert, président du club Séraphin FC.
Nous avons trouvé un Didier Drogba qui ne s'est pas seulement marqué de but, mais c'est quelqu'un avec beaucoup de maturité et d'humilité nous a présenté son programme, que j'avoue est très enrichissant et prometteur. Et je pense que ce serait très intéressant pour nous de pouvoir avoir ce jeune leader comme président de la fédération, parce que j'avoue qu'il nous a véritablement surpris par sa maturité. C'est une école qui a une image. Et cette image est même utilisée par nos politiques, qui a permis de lever des fonds, vous le savez, vous les journalistes, pour la Côte d'Ivoire, pour le tourisme ivoirien. Et pourquoi pas nous, les sportifs, ne pas utiliser cette image-là pour redorer le blason du football ivoirien? Donc je pense que mes pères présidents donneront aussi leur sentiment, mais j'avoue que ce serait pour nous une aubaine, même une chance, d'avoir ce jeune comme président de la Fédération Ivoirienne de Football.
Dans les prochains jours, Didier Drogba promet de rencontrer d'autres acteurs du football ivoirien, dont les journalistes. Au total, une trentaine de clubs et groupements d'intérêt sportif sur 81 admis au vote ont répondu à l'invitation de l'ancien capitaine des éléphants, candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Emmanuel Kofi, Abidjan, RFI.
Emmanuel Kofi, notre marathonien du week-end, il était sur tous les terrains. Les élections, pour être précis, à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football sont prévues normalement en janvier prochain, janvier 2020. Le grand adversaire de Didier Drogba devrait être l'actuel président Sidi Diallo.
Merci beaucoup, c'était Thomas de Saint-Léger. Des éliminatoires, il y en a aussi sur le vieux continent, celle de l'Euro 2020. On approche d'ailleurs de la fin, avec aujourd'hui quelques matchs de la 9e et avant-dernière journée. Certains viennent à peine de se terminer. Vous avez suivi tout ça, Tom Rossi, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bilan des opérations. Alors donc, on avait jusque-là 12 sélections qualifiées. Eh bien, on en a 4 de plus.
Et 2 nous viennent du même groupe, Eric, le groupe C. L'Allemagne, d'abord, a facilement battu la Biélorussie à Mönchengladbach 4-0. Ouverture du score juste avant la pause du local de l'étape, Mathias Ginter. l'honneur d'une belle talonnade. Deuxième but signé Leon Goretzka suite à une belle combinaison sur corner à l'heure de jeu, avant que Toni Kroos ne vienne inscrire un doublé. Au classement, les Allemands passent devant les Pays-Bas qui assurent aussi la qualification. Les Oranges ont fait match nul 0-0 en Irlande du Nord.
Allemagne, Pays-Bas qualifiés. On ajoute dans le panier la Croatie et l'Autriche, c'est bien ça?
Exactement, les Autrichiens qui n'avaient besoin que d'un match nul ont dominé la Macédoine du Nord 2-1. Ils termineront, quoi qu'il arrive, deuxième de la poule G derrière la Pologne, déjà qualifiée et victorieuse d'Israël sur le même score. Pour les Croates, vice-champions du monde, la donne était la même, mais eux aussi, se sont imposés 3-1 face à la Slovaquie. La Croatie est assurée de finir en tête du groupe E. La deuxième place se jouera entre la Hongrie et le Pays de Galles. Les Gallois, qui grâce à leur victoire en Azerbaïdjan 2-0, s'offrent une finale face aux Hongrois qui les devancent d'un point. Le match aura lieu mardi à Cardiff.
Oui, t'es déjà assuré de disputer l'Euro. Russes et Belges qui s'affrontaient tout à l'heure se disputaient à Saint-Pétersbourg la première place en fait du groupe I.
La Russie devait s'imposer par 3 buts d'écart pour chipper la première place à la Belgique. Et Eric, il y a bien eu 3 buts d'écart, mais en faveur des Diables Rouges. Succès 4-1 des Belges avec 3 buts signés Hazard, la famille. 2 buts pour Eden et 1 pour le frère cadet Torgen. Romelu Lukaku a inscrit le 4e. 9 matchs, 9 victoires, carton plein donc pour la Belgique.
Merci beaucoup Tom Rossi donc pour les résultats du jour. Et puis demain, on suivra la conclusion du groupe H, celui de l'équipe de France. Les Bleus déjà qualifiés qui voudront assurer la première place. Crucial s'ils veulent être tête de série lors du tirage au sort du 30 novembre. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps devront faire un résultat contre l'Albanie demain à Tirana. Une tâche pas forcément évidente au vu de la dernière sortie très poussive des Bleus jeudi, mais aussi parce que la formation albanaise, même s'il est déjà éliminé, sera particulièrement motivée face aux champions du monde. Explication sur place avec notre envoyé spécial Antoine Grenier.
En entrant dans l'Air Albania Stadium de Tirana, c'est l'odeur de neuf qui emplit les poumons. Le neuf d'un écrin de 22 500 places dont les travaux ont débuté en 2016. Quelques traces de peinture fraîche ornent encore certains murs, mais tout est prêt pour accueillir les champions du monde. Car cette journée d'éliminatoire de l'Euro, c'est aussi le jour de l'inauguration de l'enceinte qui remplace le vieux stade Kemal Staffa, tout en conservant à l'entrée le majestueux escalier de pierre blanche. Et pour les traîner, ce sera donc une rencontre à guichet fermé face à la France. Les Albanais restent sur un nul très décevant de partout contre Andorre. Mais arrivé mi-avril, en remplacement de son compatriote Christian Panucci, Eduardo Reggia, le sélectionneur italien de l'Albanie, veut croire en un exploit de ses troupes.
Notre équipe est évidemment moins prestigieuse, mais je suis certain que mes joueurs seront à la hauteur de l'événement. On sait bien que ce sera difficile, la France est championne du monde et ses joueurs sont de classe internationale. Mais il arrive que les plus forts ne gagnent pas toujours. Alors il nous faudra du cœur, mais pas seulement, du mental aussi, pour être intelligent tactiquement face à ces champions. On a bien préparé ce match dans ce sens. Mais après, il faut pouvoir le réaliser sur le terrain, ce qui n'arrive pas toujours. En tout cas, avec notre nouveau stade, l'équipe d'Albanie sera vraiment très motivée et voudra bien jouer, si bien sûr la France le lui permet.
Et le dernier match de l'équipe de France peut donner de l'espoir aux Albanais. S'ils ont fini par s'imposer face à la Moldavie, les Bleus ont éprouvé des difficultés inattendues en se retrouvant menés 1-0 notamment. Didier Deschamps, qui avait exprimé sa colère dans le vestiaire à la mi-temps, attend évidemment de voir un autre visage, mais il attend surtout de voir une victoire.
Mais déjà d'obtenir le même résultat qui nous permettrait d'assurer notre première place. Mieux que notre première mi-temps contre la Moldavie, forcément. La deuxième mi-temps, je répète, a été bien, bien meilleure, mais c'est un autre match face à une autre équipe, l'Albanie, qui a aussi joué un match il y a 3 jours. Ces joueurs albanais pensaient plus au match de demain et le fait de jouer la France, avec en plus le fait d'inaugurer le stade. Donc ça sera le premier match ici, avec tout ce que représente l'identification nationale, cette ferveur, cette passion. On aura un vrai match avec de l'engagement demain et il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau, bien évidemment.
D'autant que ce match de clôture des éliminatoires tricolores n'est pas anodin pour le natif de Bayonne. C'est son 100e à la tête de l'équipe de France. 7 ans de mandat, un de moins que Michel Hidalgo, mais un chiffre symbolique pour celui qui avait porté le maillot bleu à 103 reprises. Steve Mandanda, le gardien, a côtoyé Deschamps en sélection après avoir été champion de France avec lui à Marseille en 2010.
Ce qui en fait un sélectionneur à part, bah c'est un sélectionneur qui gagne, un sélectionneur qui dure, qui est bien vu par tout l'ensemble de son groupe, qui communique énormément, qui est toujours positif. Et puis il s'est inculqué aussi cette envie et cette gagne, tout simplement. Partout où il est passé, il a gagné. Et il continue à le faire en équipe nationale. Donc c'est grand respect pour l'ensemble de sa carrière, que ce soit en tant que joueur et aujourd'hui en tant que sélectionneur.
Une gagne qu'il faudra encore inculquer à des Bleus remaniés. Au moins un changement par rapport au 11 de départ face à la Moldavie. Kingsley Coman, l'ailier, s'est blessé et il a été remis à la disposition de son club, le Bayern Munich. Antoine Grenier-Tirana, RFI.
La France, pour l'instant, en tête donc de son groupe avec deux longueurs d'avance sur la Turquie qui, de son côté, jouera en Andorre. En cas d'égalité finale entre Français et Turcs au classement, ce serait les Turcs qui termineraient premier au classement, puisque, eh bien, à la différence de but particulière, les Turcs dominent les Français. L'on suivra également attentivement demain la dernière journée du groupe B, où deux équipes se disputent la dernière place qualificative derrière l'Ukraine, largement en tête. Il s'agit du Portugal et de la Serbie. Un seul point sépare les deux formations, à l'avantage de celle de Cristiano Ronaldo. Le Portugal qui jouera au Luxembourg, pendant que la Serbie recevra l'Ukraine. Coup d'envoi de ces deux matchs à suspense à 14h, temps universel. Après l'Afrique et l'Europe, direction à présent l'Amérique. La Major League Soccer, le championnat nord-américain de football, vient d'enregistrer un renfort de choix. Il s'agit de Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, a signé jeudi un contrat de 2 ans avec l'Impact Montréal pour en devenir le nouvel entraîneur. C'est pour lui un retour en MLS après avoir porté le maillot des New York Red Bulls entre 2010 et 2014. Sa première expérience ratée l'an dernier à l'AS Monaco en tant que technicien n'a donc pas dissuadé les dirigeants du club québécois de l'engager. Bien au contraire, là-bas, on se réjouit de cette arrivée prestigieuse. Confirmation avec notre correspondant à Montréal, Romain Chouet.
C'est un accueil de rockstar qu'a eu Thierry Henry à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal jeudi soir. Des dizaines de supporters, des ultras de l'Impact étaient présents et ont fait entendre leur joie d'accueillir une nouvelle star dans ce club qui a déjà eu dans ses rangs Marco Di Vaio, Alessandro Nesta et surtout l'Ivoirien Didier Drogba.
J'y croyais pas, je croyais que c'était un nom de rêve. J'ai vécu des Di Vaio, des Nesta, des Drogba. Maintenant, Thierry Henry, c'est un nom incroyable que... Non, il fallait que je me pèse ce matin.
Honnêtement, je pensais que c'était un fake news.
J'y croyais pas. J'étais sans mots.
Après une première expérience difficile sur le banc de l'AS Monaco, Thierry Henry va donc relancer sa carrière d'entraîneur de l'autre côté de l'Atlantique, dans un championnat qu'il a déjà fréquenté entre 2010 et 2014. Selon le président de l'Impact, Kevin Gilmore, qui a accordé une entrevue à Radio-Canada, c'est Henry lui-même qui a contacté la direction de l'équipe montréalaise.
Le contact s'est fait de leur part, c'est ses représentants qui nous ont contactés. Thierry, on a appris après que lui, il voulait revenir à la MLS. Et Montréal était un club qu'il avait dans sa famille. Je suis sûr qu'il y avait peut-être d'autres, mais vraiment, c'est lui qui, par entremise de ses représentants, qui a contacté l'Impact pour exprimer son intérêt à venir à la MLS et plus précisément l'Impact.
Depuis le départ de Didier Drogba en 2017, l'Impact de Montréal reste sur 2 saisons décevantes. Malgré l'arrivée du Lyonnais Rémi Garde comme entraîneur du club, l'équipe québécoise ne s'est pas qualifiée pour les playoffs et Rémi Garde a même été licencié à la fin du mois d'août. Avec Thierry Henry qui a signé pour 2 saisons au Canada, l'Impact vise désormais très haut.
Ça a été clair dès le début que lui, la façon dont il approchait le soccer en tant que joueur très compétitif, un leader sur le terrain, quelqu'un qui veut gagner, qui a gagné des championnats. C'est la même approche qu'il a comme entraîneur. Lui, vraiment, il vient ici pour avoir du succès, pour amener un championnat à Montréal.
Thierry Henry, de son côté, a affirmé dans un communiqué trouvé extraordinaire le fait de venir à Montréal, une ville, a-t-il dit, qui a un énorme héritage culturel.
Vraiment content. Je sais que ça commence. Il va falloir attendre encore un peu, mais bon, vraiment content d'être là.
C'était les seules paroles qu'il a prononcées pour le moment publiquement à l'aéroport. Thierry Henry sera officiellement présenté aux médias lundi.
Merci.
Romain Chouet, Montréal, RFI.
Et le coup d'envoi de la prochaine saison de MLS aura lieu dans 2 mois. Le tennis, la nouvelle génération a pris le pouvoir au Masters de Londres. La finale du tournoi des maîtres, qui réunit cette semaine les 8 meilleurs joueurs du monde, opposera demain Stefanos Tsitsipas à l'Autrichien Dominic Thiem. Dominic Thiem, 26 ans, qui vient de battre à l'instant l'Allemand Alexander Zverev et ses 22 printemps, 7-5, 6-3. Zverev qui était le tenant du trophée. Peu avant, Stefanos Tsitsipas avait créé la surprise en dominant tout simplement Roger Federer. Une victoire nette et sans bavure du Grec face au Suisse sur le score de 6-3, 6-4. L'Athénien de 21 ans, très solide, qui a sauvé 11 des 12 balles de break qu'il a eues contre lui durant cette rencontre. Il atteint ainsi la plus grande finale de sa carrière et forcément, il est plutôt content, Stefanos Tsitsipas.
I'm so proud of myself today.
Je suis très fier de moi. J'ai passé un très bon moment sur le court et parfois, lors de matchs comme celui-ci, tu te demandes comment tu vas faire pour surmonter toutes ces difficultés. C'est une lutte mentale et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir réussi à sauver autant de balles de break. J'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas facile pour Roger, il jouait bien. L'affronter est un grand honneur et la victoire d'aujourd'hui est probablement l'un de mes meilleurs matchs cette saison. Ce sont des moments comme cela que j'attendais. Je devais jouer mon meilleur tennis.
Stefanos Tsitsipas qualifié, Roger Federer éliminé. Il n'a pas pu rééditer le magnifique match délivré avant-hier pour éliminer le Serbe Novak Djokovic. Aujourd'hui, l'horlogerie suisse était grippée, panne de premier service, nombreuses fautes directes. Une prestation qu'il a analysée et jugée ensuite en conférence de presse, Roger Federer.
Je trouve pas qu'elle était terrible. Elle était juste mauvaise par moment. Deux smash ratés au premier jeu de service où, voilà, après deuxième set, pas de première, après tu prends un break direct, tu vois, c'est un peu, juste un peu trop facile. Après tu te mets dos contre le mur, après tu rates quelques occasions. Lui, forcément, en indoor, il va aussi bien servir de temps en temps, il va aussi jouer vers l'avant, ce qu'il fait toujours très bien. Mais je trouve juste que j'aurais dû trouver une solution, je sais pas où, comment, de rendre les choses encore plus difficiles pour lui, même si j'ai essayé. J'ai ramé comme je pouvais, mais ça voulait pas vraiment aujourd'hui. Alors, c'est pour ça, c'est frustrant et c'est dommage, mais c'est comme ça, quelquefois, le tennis en indoor.
Résultat en finale demain, il n'y aura aucun membre du Big 3 en finale, donc ni Federer, ni Djokovic, ni Nadal. C'est une rareté, c'est la troisième fois que cela arrive seulement sur les 16 dernières éditions. Nadal, éliminé hier de justesse lors de la phase de poule, mais qui peut se consoler avec le titre et le trophée de numéro 1 mondial de l'année. Il finit en tête devant Novak Djokovic, un dossard de numéro 1 en fin de saison qu'il décroche pour la cinquième fois de sa carrière, cinquième fois comme Federer et Djokovic. Du reste, une grande joie pour lui qui aura connu un printemps très compliqué parsemé de doutes et de contre-performances. Raphaël Nadal.
Honnêtement, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis super heureux. Après tout ce que j'ai traversé durant ma carrière, les blessures, je n'aurais jamais pensé avoir ce trophée une nouvelle fois dans mes mains à 33 ans et demi. C'est très, très émouvant pour moi. Il a fallu beaucoup de travail pour évacuer le passé et en arriver là aujourd'hui. Sans toute mon équipe et ma famille qui sont là à mes côtés, cela aurait été impossible. Je peux juste remercier tout le monde pour m'avoir soutenu. Comme cette année par exemple, avant et après Monte Carlo, sans le soutien de tous ces gens qui sont ici à ma gauche, les choses auraient été différentes pour moi cette année. Ils m'ont encouragé à continuer et je ne pourrai jamais les en remercier assez. Merci beaucoup.
Nadal que l'on retrouvera dès la semaine prochaine chez lui à Madrid pour disputer la Coupe Davis, nouvelle formule. La finale inédite donc demain du Masters avec deux novices en finale, Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem. Coup d'envoi à 18h, temps universel. Et puis juste avant, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut disputeront la finale du double. Voilà, un grand merci à Hélène Avril et Jean-Philippe Thury. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.
Musique du monde.